Ce passage, nous le connaissons bien, de Jésus retournant à Nazareth. Et là, on a vu la réaction à ce qui se passe. Mais avec le texte d'Ézéchiel et avec beaucoup d'autres prophètes que nous sommes en train de lire, on s'aperçoit que la prédication dès l'Ancien Testament des prophètes était forte, vigoureuse, mais elle n'était guère entendue. Cet échec de la prédication du Christ à Nazareth, c'est-à-dire ce qui incarne symboliquement la vie quotidienne, une vie sans signe particulier, une vie de foi vécue dans un contexte très humain, très ordinaire, mais qui devrait être fervent, eh bien là, au contraire, c'est un contexte où, malgré le constat de la sagesse de la parole de Jésus, une sagesse immense, même ses ennemis en convenaient. Souvenons-nous, par exemple, entre autres, de l'impôt à payer à César, une réponse incroyable, qui tient à la fois de la sagesse la plus profonde et en même temps de l'opportunité rhétorique la plus immédiate et la plus cinglante. Mais, nonobstant ce constat et les miracles dont ils ont tous entendu parler, il y a même, évidemment, il y a les 12 qui sont là, qui peuvent les rapporter, et d'autres disciples qui suivent Jésus, ont été témoins et qui affirment l'existence de ces miracles. Et pourtant, l'incrédulité continue de régner. Nazareth, c'est un lieu très décevant pour Jésus. Nazareth, c'est le monde où Dieu vit, mais se tient là, dans une présence silencieuse, comme sur la barque qu'on a évoquée il n'y a pas très longtemps. La barque, là, au milieu de la tempête, Jésus dort sur le coussin. Nazareth, c'est un peu pareil, un lieu paisible, et en même temps, qui demande, qui réclame une recherche, qui exige d'aller plus loin, mais qui invite à aller plus loin, qui n'est pas un obstacle à renverser, mais une main invisible tendue vers chacun pour approfondir sa foi, comme pour nous, un temps de vacances, par exemple. Et ce temps de vacances, il ne doit pas devenir profane. Nazareth était devenu profane. Pourtant, Jésus s'était tenu 30 ans au milieu d'eux. Et il y a sa famille qui est là, mais on sait que sa famille elle-même, tous ses cousins, n'étaient pas forcément des gens de foi. Ils partageaient l'incrédulité, eux aussi, des gens de Nazareth. Ce mouvement-là, il a été malheureusement traduit théologiquement, notamment au XXe siècle. Le XXe siècle, alors, ça a été préparé, tout le XIXe siècle avait déjà préparé ce type de révolution culturelle, ad intra, si j'ose dire. C'est, souvenons-nous, la fameuse condamnation du modernisme par le pape Saint-Pie X. Qu'est-ce que c'est que le modernisme? La pensée moderne, bien sûr, de l'époque, mais on est au tout début du XXe siècle. Et qu'est-ce qui se passe? Dans l'exégèse, notamment, c'est-à-dire dans la lecture de la Bible, dans ceux qui sont les spécialistes de la Bible, les scribes de l'époque du Seigneur, on dit, par exemple, que Jésus, le Christ, c'est un produit de son environnement, un produit de son milieu. On l'a tous entendu, parce que ça a continué à être enseigné tout au long du XXe siècle, et ça continue de l'être un peu moins, c'est plus atténué, mais peu importe. Jésus, produit de son environnement. Un juif, donc, et puis un prophète aussi, comme dans l'Ancien Testament. Mais voilà, tous les enseignements qui nous sont parvenus ne sont pas de lui. Ils sont de qui? C'est les disciples, après la résurrection, qui ont complètement façonné les évangiles et tous les enseignements qui nous sont parvenus. Bultmann et beaucoup d'autres n'hésitaient pas à dire, mais ça, ce n'est pas les paroles de Jésus. On s'est mis à rechercher parmi les évangiles quelles étaient les ipsissima verba, les véritables paroles du Seigneur. On en a sélectionné quelques-unes quand même. Voyez ce type de choses-là, au nom de la science, au nom de l'histoire, tout interprété en fonction du temps, de ce premier siècle de notre ère. Jésus ne pouvait pas penser en dehors des catégories de son temps. Et pourtant, la pensée du Seigneur est éternelle. Elle va au-delà de tous les temps. Et voyez comment on peut finalement avoir une vision complètement profane de Dieu. Et on l'a eu dans l'Église elle-même. Alors ça a été beaucoup plus grave dans le monde protestant, mais ça a beaucoup inspiré, malheureusement, le monde catholique, et notamment ce monde de l'exégèse, des spécialistes de la Bible. Voyez par exemple aussi un autre texte, le texte de l'Apocalypse, si mystérieux. Eh bien, le modernisme, ça consiste à dire bien que tous les symboles de Jean ne se rapportent pas à un futur indéterminé, que tout ce qu'il nous raconte dans l'Apocalypse, c'est le simple reflet codé, on ne sait pas pourquoi il l'avait codé, mais codé, par peur des Romains, une lecture de la situation de son Église, l'Église de son temps, et encore celle de l'Asie mineure plus particulièrement, et au premier siècle de notre ère. Donc l'Apocalypse, vous voyez, quand on vous dit ça, vous êtes croyant, ou en tout cas vous êtes un jeune, on vous enseigne la théologie de l'Apocalypse, et on vous dit, finalement, c'est une présentation de la situation au premier siècle de notre ère. Alors à quoi ça nous sert aujourd'hui? On vous dit, Jésus, il n'a pas du tout dit toutes les paroles qui sont dans les évangiles, c'est les apôtres, les évangélistes, qui les ont inventés. Il y en a même d'autres qui disaient, c'est même pas des gens individuels qui l'ont fait. C'est la communauté. Il y avait une espèce d'ardeur pour la communauté, pour le peuple. Il y avait le marxisme qui était triomphant à l'époque. Et donc c'était le peuple, la communauté. Et donc les auteurs du Nouveau Testament, ceux qui mettaient sur le papier, eh bien c'était même pas leurs idées personnelles. On a été très loin dans l'absurde. Nous savons, parce que nous avons une lecture de foi et donc une lecture théologique, nous savons, nous, que les évangiles sont le reflet exact des paroles de Jésus. Comment les apôtres, simples pécheurs, hommes très simples, eh bien, pouvaient-ils inventer une telle sagesse? Les gens de Nazareth s'étonnent de la sagesse du Christ, c'est une sagesse éternelle. Et ils nous parlent de tant de choses qui n'avaient pas cours au premier siècle de notre ère. Les gens n'avaient aucune idée de la résurrection. On pariait dessus, mais sans savoir ce que ça pouvait être. Et encore, quelques-uns seulement pariaient dessus, les pharisiens. Les pharisiens espéraient une vie future. Mais les autres mouvements religieux n'attendaient rien sinon le Shéol, l'anéantissement. Jésus a innové d'une façon merveilleuse. Alors nous devons fonder notre foi sur la sagesse du Christ et non pas sur une prétendue sagesse de ses disciples. De même, toujours le modernisme condamné par Saint Pie X, c'est les dogmes ne sont pas des vérités définitives, on les définit en fonction des temps et on les adapte en fonction des idées des civilisations. Alors il faudrait faire pas mal d'adaptations, il faudrait pas mal de dogmes différents, de magistères différents, parce que maintenant il n'y a plus aucun mondialisme culturellement parlant. Alors il faudrait faire une église et un magistère pour la Chine, une église et un magistère pour l'Europe, une église et un magistère pour l'Afrique, pour l'Asie, l'Océanie, pour le continent américain, nord puis sud. C'est complètement absurde. Vous voyez comment Saint Pie X a eu une intuition merveilleuse en essayant d'éradiquer vraiment ce cancer. Et c'est un vrai cancer. Ça consiste à mettre la révélation sous les pieds d'une prétendue science qui nie le fait, qui commence par avoir pour principe, c'est le principe de la science, il n'y a pas de révélation. Alors on commence comme ça. On prend la révélation et ceux qui la reçoivent disent « Bon, on va l'analyser en considérant que ce n'est pas une révélation. » Ça détruit toute théologie, ça détruit tous les fondements de la foi. L'Église n'a pas le droit de faire ça. Ensuite, après Saint Pie X, eh bien, le modernisme est revenu dans l'Église. Alors, il est revenu de façon atténuée quand même, mais finalement, les papes ont accepté que les exégètes continuent d'exégétiser le pauvre texte de la Bible, de le torturer dans tous les sens. Mais peu importe, ce qui compte pour nous, ce que je veux dire, c'est que Nazareth, ça incarne ça. Nazareth, ce lieu si décevant pour Jésus, c'est une religion qui adhère à Dieu, qui sous les apparences extérieures est impeccable, mais elle n'adhère pas intérieurement. Vous voyez, c'est comme la contradiction des exégètes qui étaient des prêtres, hein, qui sont des prêtres, la plupart du temps. C'est dire, on accepte la Bible comme révélation, ça c'est la théorie, et puis en pratique, eh bien on dit, on met à part la révélation et on va analyser le texte autrement. Et on arrive à quoi ? Jésus est le produit du milieu dans lequel il a vécu, dans lequel il a grandi, dans lequel il est mort aussi d'ailleurs. Alors je vous passe toutes les hérésies qui ont pu être formulées, c'est même inutile. On comprend bien que Jésus ne dépend pas du milieu terrestre où il est venu s'incarner. Le seul milieu qui puisse servir de référence pour comprendre Jésus, c'est la Sainte Trinité. C'est le ciel, mais curieusement, celui-là, on n'invoque jamais. On invoque toujours, le Nazareth, précisément, là où il a grandi. Et là où il a grandi, on ne voulait pas entendre parler de divinité. On voulait entendre parler du charpentier. Mais la divinité, ça n'intéressait personne. On voit, avec la passion du Christ, comment la vérité est rejetée. Parce que ce qui rend le Christ dangereux, c'est sa sagesse, précisément. Et les grands miracles ne sont rien d'autre que le reflet de cette sagesse. Et ce qui rend le Christ dangereux, c'est d'être précisément l'interprète de la vérité, d'être la vérité elle-même. Alors tant que vous n'affirmez pas la vérité, tant que la vérité n'a pas une valeur contraignante pour les consciences, vous pouvez coexister avec toutes sortes de paganisme. Ça gêne personne. Mais si vous croyez, comme un catholique doit le croire, que Jésus et ses enseignements sont la vérité et qu'ils sont contraignants, à savoir qu'il faut les appliquer dans sa vie, eh bien là, vous dérangez tout le monde. Vous jugez, comme ils disent. Ah, ne me juge pas. Mais il y aura un juge. Et là, contre celui-là, on ne pourra pas refuser la sentence qu'il énoncera. L'échec de la prédication du Christ, finalement, c'est l'échec du salut. Oui, Nazareth, la sympathique petite ville de Nazareth, le Christ y a expérimenté l'échec du salut. Et il ne suffit pas comme le dit Jésus dans une de ses paraboles, vous direz, « Oh Seigneur, Seigneur, souviens-toi de nous, nous avons prêché sur les places en ton nom, nous avons exorcisé des gens en ton nom, on a fait tant de choses en ton nom, on a gagné de l'argent aussi en ton nom, et peu importe. » Eh bien non, Jésus dit, « Loin de moi, je ne vous connais pas. » Pourquoi, qu'est-ce qui manque à tout cela, à Nazareth ? Ce Nazareth qui nous est présenté dans l'Évangile. Il manque la prière, il manque la relation personnelle avec Dieu. Oh, ils étaient en relation avec Jésus, Salut le charpentier, tu vas aujourd'hui? Ouais. Ça, c'est pas de la relation. La relation avec Jésus, c'est ce que nous appelons la prière. C'est mettre ses commandements comme lumière de notre vie. C'est l'aimer. L'amour n'est pas aimé, disait François d'Assise. Et il a bien raison, l'amour n'est pas aimé dans notre monde. L'amour n'était pas la norme à Nazareth. Nazareth, c'est le monde, je le dis en conclusion, qui n'est pas contre Dieu tant que Dieu ne le dérange pas. Voilà. Ben ça, Jésus l'appelle la tiédeur et il vomit les tièdes, comme il le dit dans l'Apocalypse.